Chers frères et sœurs, on a coutume de dire, même si ce n'est pas très réjouissant, que notre société est dépressive. Alors ce qui nous fait du bien, c'est de savoir que ça n'a pas la première fois qu'une société a été dépressive. Et le moment où écrit le prophète Isaïe, ou quelqu'un de son école, peu importe, eh bien c'est un moment pas facile. Si vous vous souvenez bien, les Hébreux sont partis en exil à Babylone pendant près de 70 ans. Et puis ils sont venus. Donc ils ont attendu une espèce de renouveau, de joie nouvelle qui allait les visiter. Et ils reviennent et ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Et le prophète va essayer de les faire réfléchir. Ne soyez pas analphabètes de votre histoire, leur dit-il. Pourquoi vous êtes partis en exil? Eh bien, souvenez-vous de votre histoire. Vous quittiez le désert, vous vous étiez installés en terre promise. Et puis là, vous avez construit des maisons, des palais. Vous avez oublié le désert, vous avez oublié Dieu, vous avez oublié l'Alliance, vous avez méprisé les pauvres. Vous ne les avez pas servis. Et de ce fait-là, Dieu vous a symboliquement renvoyé au désert où on connaissait cette solidarité. Ce désert symbolique, c'est l'exil. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, dit le prophète Osée. Voilà, mais une fois revenu, une fois que vous êtes à nouveau en terre promise, libéré par le roi Cyrus de cet exil si douloureux, alors vous avez essayé de reconstruire le temple tant bien que mal. Il a fallu 18 ans pour que ça commence à se mettre en place, cette affaire-là. Et puis très vite, vous avez voulu être fervent, vous avez jeûné, mais tandis que vous jeûniez, vous vous disputiez, vous exploitiez le pauvre. C'était les quelques versets qu'on avait avant ce qui était proposé à notre lecture d'aujourd'hui. Alors à quoi ça vous a servi ces 70 ans en exil ? À rien. Alors je vais vous montrer un chemin justement pour qu'il y ait un vrai renouveau. Eh bien voilà les versets que le Seigneur va proclamer, que le prophète va proclamer. Ainsi parle le Seigneur, partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Et quel est le fruit de tout cela ? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Alors quoi ? Eh bien, tes forces reviendront vite. Alors, si tu appelles le Seigneur, il dira « Me voici ». Ça, c'est extraordinaire. On ne s'en rend pas assez compte. Il y a parfois dans nos vies une telle déconnexion entre notre vie spirituelle et le service du prochain. On pense que le service du prochain, ben c'est un commandement de Dieu, alors il faut effectivement faire les œuvres de charité, et puis on sentira quelqu'un de bien, enfin peu importe. Mais on n'a aucune idée que ça peut peut-être avoir quelque chose avec notre vie spirituelle. Servir à la soupe solidaire, aller chercher un sandwich au SDF, quel est le résultat ? Que le SDF est moins fin, c'est quand même l'essentiel. Mais le résultat, nous dit Esaïe, c'est le sentiment de la présence de Dieu. Bien mieux, c'est Dieu qui vous visite en ce moment-là et qui vient vous réjouir. On fonctionne sur un modèle de batterie, de véhicule électrique. Il faut recharger pour ensuite dépenser. Alors où est-ce qu'on se recharge ? On se recharge à la prise, c'est la prière. Et ensuite, on va dépenser son énergie dans une action solidaire, dans le service, que sais-je encore. C'est une énorme erreur. Certes, la prière est le fondement de notre charité, je n'en disconviens pas, mais on oublie, comme le dit Isaïe aujourd'hui, que le pauvre est une source de vie spirituelle. Sans service auprès du prochain, pas de vie spirituelle. On a oublié ce lien profond qui était pourtant si présent au XVIIe siècle, on voyait que le pauvre avait une valeur de quasi-sacrement. Peut-être vous souvenez-vous du philosophe Pascal, c'est dans les derniers jours de sa vie, en 1662, la maladie le ronge. Il a très probablement un cancer de l'estomac et, pris de vomissements incessants, il craint de profaner l'Eucharistie si jamais il venait à la recevoir en la régurgitant. Et donc, il en est désolé. Et que va-t-il dire à sa sœur Gilberte ? Amenez-moi, s'il vous plaît, un pauvre, pour que, si je ne puis communier à la tête, je puisse au moins communier aux membres. Et il va demander que les médecins soignent ce pauvre, soigner ainsi un membre du Christ. C'est déjà aussi soigner le Christ. Ça, c'est magnifique. Voyez quelle profondeur spirituelle, à quel point nous avons perdu ces intuitions. Mais le pauvre, si je puis dire, n'est qu'une présence passive du Christ, tandis que les sacrements, c'est une présence active. Nous recevons l'Eucharistie et l'Eucharistie fait son œuvre en nous. Nous passons près d'un pauvre, rien ne se passe si nous l'ignorons. Si nous approchons de lui, si nous lui parlons, si nous le regardons dans les yeux, si nous le touchons, disait le pape François, alors là, oui, la lumière jaillit, la source de grâce est là, telle au moins que nous l'a décrit le prophète Isaïe. Voilà, nous devrions tous nous demander, moi le premier, avons-nous tous notre pauvre, pardon de parler comme ça de manière un peu peut-être paternaliste, vous comprendrez ce que je veux dire à travers cela, une vieille dame que je connaissais bien, descendait régulièrement, c'était ma marraine, je vous ai déjà parlé, mais voilà, je la recite à nouveau, elle descendait régulièrement acheter son sandwich aux pauvres qui étaient logés dans l'embrasure de la porte cochère qui était en face de son appartement. Et quand elle n'a plus pu descendre les escaliers, eh bien elle s'arrangeait avec une ficelle pour le lui descendre par le balcon. Parce qu'il y avait une intuition très profonde qu'elle avait saisie. Il en allait de sa santé spirituelle, de sa solidité spirituelle, comme le dit le psaume de ce jour. L'homme de bien a pitié, il partage. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme jamais ne tombera. Qu'est-ce qui va se passer encore? Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Et saint Vincent de Paul, toujours de ce si grand siècle qu'on appelait le grand siècle des âmes du XVIIe, disait à ces petites religieuses, « Souvenez-vous que vous avez besoin de votre pauvre plus encore qu'il n'a besoin de vous. » Demandons-nous si dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, sont bien présents ces trois traits constitutifs de l'Église. L'annonce de la parole, la célébration de la foi et le service du prochain. Ce dernier point peut très vite passer aux oubliettes. Je le dis d'abord pour moi. Juste un tout petit mot pour que nous comprenions, nous avons la joie d'avoir un diacre aujourd'hui. Le diacre, dans sa personne, fait le lien entre vie spirituelle et service. Il est plus spécialement chargé par l'Église, justement, d'aller au service des périphéries, des plus pauvres, des plus nécessiteux, pour apporter tout cela dans le sacrifice de l'Eucharistie. Alors c'est certain que ce service du pauvre, il doit se faire avec un profil bas. Et pour cela, les lectures de ce jour vont nous apporter une mise en garde et un conseil. Quelle est cette mise en garde? Eh bien, c'est saint Paul qui nous le dit dans la deuxième lecture. Il nous dit en substance, « Ne soyez pas riches de la vérité que vous avez découvert dans la foi chrétienne de telle façon que vous en écrasiez les autres. C'est dans la faiblesse, craintif et tout troublant, que je me suis présenté à vous. Mon langage n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Je suis venu devant vous, pauvre et malhabile. » Je me souviens de ce que disait le fondateur du cours Alpha. Il disait, la vérité pour l'Église, eh bien, c'est une chance et c'est un risque. C'est une chance parce que nous avons la plénitude de la vérité, mais c'est un risque parce que, le sachant, nous pouvons aller au-devant les autres pour les écraser sous le poids de notre découverte et de nos certitudes. Alors il recommandait dans les cours Alpha, vous le savez, c'est un topo et ensuite il y a des petites tables qui se mettent en place où on va discuter du topo qui vient être reçu avec les nouveaux venus, les curieux de la foi, si on peut dire, et puis les organisateurs. Et ce fondateur d'Alpha disait, faites toujours en sorte qu'autour de la table, parmi les organisateurs, il y en ait un qui ne dise rien, qui se taise. Pourquoi ? Parce qu'il doit être le témoin d'une église qui sait écouter avant de parler. D'une église qui sait compatir avec celui qui n'a pas le langage, qui n'a pas les mots, qui n'a pas les codes, et que pendant ce temps, il prie. Et beaucoup de bien se fait ainsi. N'oublions pas que le diable est un très bon théologien et qu'il ne fait pas de bien. Encore une fois, Vincent de Paul, quand il disait à ces petites religieuses qui allaient visiter leurs pauvres, « Faites-vous pardonner le pain que vous leur donnerez ?» Nous pourrions dire « Faites-vous pardonner la vérité que vous leur délivrerez ?» Dernier point, un conseil pour mieux aimer, pour aimer comme le Seigneur veut qu'on aime. Comment nous demande-t-il d'aimer dans l'Évangile aujourd'hui ? Eh bien, en étant sel de la terre et lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, sel de la terre ? Le sel, c'est pas très ragoûtant. Si vous avez un bol de sel devant vous au petit déjeuner, ben, vous n'aurez peut-être pas envie de le prendre à la petite cuillère. Mais le sel va avoir toute sa valeur et sa fonction s'il vient à parfumer vos entrecôtes, vos légumes, vos frites. Voilà, pardon, j'anticipe un peu de ce qui va se passer dans quelques heures. Voilà, mais ce qui est important, c'est de voir que la saveur de chacun doit être révélée par notre attitude. Une saveur que peut-être certains ignorent. « Oh, je ne vaux rien, je suis un nul. » C'est si fréquent. Eh bien, par notre charité, notre connaissance de l'autre, notre douceur, notre juste fermeté aussi, nous permettrons à l'autre d'être en confiance et de révéler les trésors de caractère, de talent aussi sans doute, qu'il possède. Et à l'inverse, nous savons bien que si nous sommes agressifs, nous n'allons tirer des autres que ce qu'ils ont de plus laid, une saveur qui aura le goût de fiel. J'aime cette définition de la charité. Notre charité est en définitive un faire-valoir de nos frères. Souvenons-nous aussi de ce mot de Saint Louis. Il faut aimer les autres, ou parce qu'ils sont bons, ou pour qu'ils le soient. Frères et sœurs, ces textes sont pleins d'une extraordinaire santé spirituelle, des vrais vaccins contre la dépression qui peut nous guetter. Appliquons-les, nous. Communion au Christ en communion à ses pauvres. N'écrasons nul homme en assenant la vérité. Révélons à chacun la merveille qu'il est, aux yeux des hommes peut-être, aux yeux de Dieu sûrement.